Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Trêve ou pas trêve ce matin dans la bande de Gaza. Le Hamas a accepté une proposition hier soir. Les pourparlers se poursuivent et Israël mène en attendant d'intenses bombardements, toujours en ce moment sur la ville de Rafah. Marseille se prépare à accueillir la flamme olympique. Ce sera demain avec une grève des éboueurs qui dure depuis maintenant 8 jours.
Et d'ailleurs, à 7h40, on part à Marseille. On sera en direct avec Samia Ghali, l'adjointe à la mairie, en charge des grands événements.
Et Paris, qui compte sur son public plus que jamais ce soir pour sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Paris contre Dortmund, journée spéciale sur RMC.
Les bombardements continuent ce matin sur la ville de Rafah.
Alors la situation est la suivante ce matin dans la bande de Gaza et vous allez tout comprendre avec Romain Houg. Une proposition de trêve est sur la table. Le Hamas l'a acceptée dans la soirée. Mais pas Israël, qui la juge insuffisante et qui bombarde depuis cette nuit la ville de Rafah.
Des explosions entendues jusque tard cette nuit à Rafah et dans ses environs. Frappes aériennes, tirs d'artillerie et chars en position, preuve de l'intensification de l'opération menée par Tsahal dans ce territoire où s'entassaient encore le week-end dernier plus d'1,2 million de Palestiniens déplacés par les combats. Une opération militaire que le cabinet de guerre d'Israël a décidé de poursuivre à l'unanimité hier soir malgré un feu vert donné par le Hamas à un accord de trêve. Accord loin des exigences, juge le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Guillaume Lagan est spécialiste des relations internationales.
Ça peut être que le Hamas demandait une suspension des opérations militaires pour toujours. Or, Israël a bien insisté sur le fait qu'elle voulait, entre guillemets, terminer le travail à Rafah.
Dans cette ville du sud de la bande de Gaza, la perspective d'un cessez-le-feu avait pourtant soulagé les habitants palestiniens.
Dieu merci, le Hamas a accepté un cessez-le-feu.
Nous en avons assez des guerres. Assez des guerres, assez.
Malgré la poursuite des opérations, le dialogue n'est pas rompu. Une délégation israélienne est attendue ce matin au Caire pour reprendre les négociations sous l'égide des pays médiateurs, l'Égypte et le Qatar.
Et c'est dans ce contexte que se déroulait hier soir à Paris le dîner du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives, en présence de Gabriel Attal, qui a donné le chiffre de 366 faits antisémites enregistrés depuis le début de l'année en France, en hausse de 300% par rapport au premier mois de 2023. Voilà ce que dit le Premier ministre qui parle d'une déferlante antisémite.
Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60% des actes antireligieux sont des actes antisémites. Ce sont des violences, ce sont des intimidations, ce sont des lettres d'injures, d'insultes, de menaces. Chaque acte antisémite est une tache sur le drapeau français. Alors nous ne les tolérerons pas. Pas un acte ne doit rester impuni. Pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille en République.
Hier soir, Emmanuel Macron dînait avec le président chinois à l'Élysée avant de passer sa journée dans les Pyrénées au Tourmalet avec Xi Jinping. Les deux dirigeants ont appelé à une trêve des conflits dans le monde durant les Jeux Olympiques après avoir échangé sur les différents commerciaux entre Europe et Chine. Emmanuel Macron a d'ailleurs offert des bouteilles de cognac à Xi Jinping en se félicitant qu'il n'y ait pas de taxes dans l'immédiat pour ce spiritueux. À 7h04 sur RMC, un moment fort, des enfants qui témoignent au procès en appel de l'attentat de Nice. Attentat qui avait fait 86 morts sur la promenade des Anglais, c'était le 14 juillet 2016. Le procès se déroule aux assises spéciales de Paris, mais les enfants témoignent depuis Nice pour la première fois. Visioconférence, ils étaient deux hier, un frère, une sœur, 12 et 13 ans aujourd'hui. Deux donc à raconter l'horreur, Lucille Pascani.
Sur les écrans géants du tribunal, deux visages poupons concentrés sur leurs notes. Landy et Télie en avaient que 4 et 5 ans le soir de l'attentat, quand le camion a fauché leur famille. Nous sommes tombés et le film d'horreur a commencé, lit la jeune fille d'une voix fluette. Papa et maman étaient très affolés, raconte-t-elle. Ils avaient retrouvé la poussette de mon petit frère, mais elle était retournée sans bébé dedans. Papa l'a cherchée parmi tous les cadavres. Finalement, le nourrisson est retrouvé sain et sauf. La fillette, elle, est gravement blessée à la jambe. Je saignais de partout. J'ai été un mois H24 à l'hôpital. Son petit frère raconte lui aussi la douleur et les séquelles 8 ans après. J'étais tout simplement un enfant terrifié. Jusqu'à présent, quand le soir vient, j'ai toujours de l'angoisse. Ils vont mieux aujourd'hui. Mes témoignés faisaient partie du processus de guérison. Ce sont eux qui ont convaincu leur avocate Tina Colombani-Bataillard de les laisser s'exprimer devant le tribunal.
Ils ont insisté pour être entendus. Et non seulement ils voulaient le faire pour eux, mais également pour tous les enfants qui n'ont pas eu la force de le faire. Tous les enfants victimes de cet attentat pour enfin être entendus eux aussi.
Au total, comme l'ont dit Télian, une dizaine d'enfants devraient témoigner pendant ce procès en appel.
Entre 4 et 6 milliards d'euros, c'est ce que vont coûter les ponts du mois de mai, selon l'INSEE. On est mardi, c'est déjà le dernier jour de la semaine pour beaucoup. Avec demain, donc le 8 mai, dans la foulée, le pont de l'Ascension, c'est d'ailleurs une journée classée rouge par Bison Futé sur la route. Tiens, sur la route, on vous dévoile ce matin sur RMC en exclusivité avec BFM TV les résultats du 14e baromètre de la Fondation Vinci Autoroute. 55% des automobilistes klaxonnent de façon intempestive les conducteurs qui les énervent et 32% collent délibérément une voiture qui les agace devant eux. On en est à la 8e journée de grève à Marseille ce matin. Les poubelles ne sont plus ramassées donc depuis 8 jours dans 9 arrondissements de la ville. Voilà donc l'image que Marseille va donner demain au monde entier pour l'arrivée de la flamme olympique, Lionel Dion.
Anthony vient de Bayonne pour passer la semaine à Marseille et voir notamment la flamme olympique. Le meurtre d'un adolescent de 17 ans près d'un point de deal, ça le touche, mais ça ne l'inquiète pas outre mesure.
Effectivement, c'est pas terrible. Après, je sais qu'il faut pas aller dans certains quartiers, mais quand on reste dans le centre, ça va à peu près.
Évidemment moins grave, mais beaucoup plus visible. La grève des éboueurs CGT colle aussi à l'image de la ville et déçoit Fatia, touriste parisienne.
Les poubelles, elles débordent, c'est une horreur. Presque une déchetterie à ciel ouvert. Ça me renvoie une ville dégueulasse. Ce qui est dommage, parce que Marseille, c'est une ville qui est magnifique.
Ces entassements d'ordures avec les odeurs et les nuisibles qui les accompagnent. Pour Marine, qui habite Marseille, cela fait un peu partie du décor.
Malheureusement, c'est devenu un petit peu une habitude dans notre ville. Alors c'est dommage parce que quand il y a de si beaux événements comme l'arrivée de la flamme à Marseille, ben, ça va ternir encore un petit peu l'image de la ville. Mais c'est devenu un petit peu notre quotidien, donc on est un petit peu résigné et on s'est habitué à tout ça. Mais bon, la grève des poubelles, on s'en passerait bien, ça c'est sûr.
Selon nos informations, le ramassage des ordures continuera à s'effectuer sur le Vieux-Port et sur le parcours de la flamme olympique dans les jours qui viennent, mais pas dans les quartiers plus excentrés où les grévistes sont majoritaires.
Et je vous signale une journée spéciale demain sur RMC. Les Grandes Gueules et le Super Moscato Show seront en direct de Marseille depuis le Mucem et le Vieux-Port. Et alors, en attendant, c'est une soirée spéciale ce mardi. Soirée spéciale PSG Dortmund sur RMC, puisque c'est la demi-finale retour de Ligue des Champions en direct du Parc des Princes de 18h jusqu'à minuit et demi. Les Parisiens ont perdu 1-0 la semaine dernière au match aller. Ils doivent absolument gagner ce soir devant leurs supporters. 29 ans qu'il n'y a pas eu de demi-finale de Ligue des Champions en public au Parc des Princes. Ça change la donne forcément, Arthur Perrault.
Oui, toute la semaine au centre d'entraînement de Poissy, l'entraîneur Luis Enrique tient le même discours aux supporters.
C'est la unique phrase que c'est en français. On va gagner.
On va gagner. C'est la seule phrase que je connais en français.
On va gagner, bien sûr.
Des mots bien loin de la pression des années précédentes, comme face à Barcelone en quart de finale. Les Parisiens sont sereins face à l'événement. Ils travaillent quotidiennement avec un psychologue du sport. Le capitaine Marquinhos s'est apaisé.
On ne sait pas ce qui va se passer. La confiance, je crois, qui vient de travail, qui vient de la sérénité qu'on a travaillé pendant toute la saison.
Autre élément pour aider les joueurs à se transcender, le Parc des Princes sera plein. 47 000 spectateurs, le collectif Ultra Paris, principal groupe de supporters, appelle le public à ne faire qu'un. De quoi motiver le coach Luis Enrique.
On a la garantie absolue que les supporters seront avec nous, surtout quand ça va moins bien. On l'a vu à Dortmund, c'était magnifique. J'espère qu'on pourra célébrer le passage en finale.
Une sérénité qui touche aussi le président Nasser Al-Khelaifi, présent hier à l'entraînement. Son calme n'empêche pas d'avoir conscience de l'enjeu. Le dirigeant confie qu'il s'agit du match le plus important depuis que les Qataris sont à Paris.
Parmi les 47 000 personnes ce soir au Parc des Princes, il y aura Charlemagne, hein, avec son écharpe du Paris Saint-Germain.
47 000 personnes attendues ce soir.
Pas sûr qu'il ait beaucoup de voix demain matin.
Je suis pour fêter ça.
Il est 7h09 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Deux présidents, deux puissances nucléaires qui vont être réunis dans un restaurant d'altitude à 2000 mètres de haut. Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping déjeunent à la Mongie, la station de ski des Pyrénées au col du Tourmalet. Et dans un instant, on sera en direct justement avec le chef qui accueillera les deux présidents, les deux chef d'État dans son restaurant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
On part tout de suite dans les Pyrénées, il est 7h11.
Le témoin RMC.
Et le témoin RMC, c'est vous, Alain Abadi. Bonjour.
Éric Abadi, merci.
Éric Abadi, pardon. Monsieur Abadi, on va dire. Chef, voilà. Abadi, vous tenez le restaurant d'altitude qui va accueillir tout à l'heure Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping. Ils viennent déjeuner dans ce restaurant pas comme les autres. Hein. Ça s'appelle l'étape du berger. C'est à la Mongie, dans les Hautes-Pyrénées.
Au col du Tourmalet.
Au col du Tourmalin, je me trompe pas, 2150 mètres.
Du Tourmalet.
Non mais j'ai dit Tourmalet. Pourquoi j'ai dit Tourmalin ?
Oui, vous avez
dit. Non ? Voilà. Mais parce que Tourmalet, ça me plaît, Tourmalin. Alors on reprend. Éric Abadi, le col du Tourmalet, 2150 mètres d'altitude. C'est Xi Jinping et Emmanuel Macron.
Le président. Bon. Le
Voilà. Il vous a choisi parce que c'est un restaurant qu'il aime particulièrement, qu'il connaît bien, où il vient depuis son enfance. Hein.
C'est ça. Ça fait une trentaine d'années qu'il vient chez nous.
Vous imaginiez un jour recevoir le président chinois ?
Ah non, du tout. Du tout. Le président français, oui, puisque je le reçois régulièrement. Mais le président chinois, ça a été bien sûr une surprise. Alors, on en avait parlé quand il est venu au mois de février ou mars.
Ouais.
Il m'a dit, j'aimerais te faire venir le président chinois. Bon, écoute, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais après,
comment on se prépare à ça ? Comment on se prépare à ça ?
Oui, comment ça se prépare pour autre chose, hein. Vous savez, je ne fais rien d'exceptionnel, je fais ce que je sais faire. Hein.
Alors, c'est quoi que vous savez faire ?
Eh bien, ma cuisine du terroir, donc on va mettre de la garbure, de l'agneau de lait confit, ce qu'on fait habituellement. On a des produits qui sont reconnus au niveau international, puisqu'on a le porc noir, c'est un des meilleurs jambons au monde.
Mmh.
Donc après, bon, on n'a pas besoin d'artifice, on n'a pas besoin de tout ça, on met nos produits en avant.
Donc, agneau de lait confit, porc noir.
Oui, il y a des épaules d'agneau, il y aura des épaules d'agneau, il y a du jambon de porc noir, il y a des haricots tarbés, et après, bon, il voulait une tarte aux myrtilles, donc on y a fait une tarte aux myrtilles, voilà.
Ah, c'est le président qui vous a appelé pour vous demander le menu ?
Non, on en a discuté ensemble, après, bon, voilà, il sait ce qu'on mange chez nous, donc il m'a dit, ben Eric, vas-y, tu fais. Et moi, je lui ai proposé en plus la garbure parce qu'il ne voulait pas la garbure, mais j'ai dit, écoute, c'est le plat typique, surtout que bon, il ne fait pas faire trop chaud, donc la garbure, ça va être d'actualité. Donc, comme il y a la garbure, il mangera un peu de la garbure aussi.
Il ne va pas faire trop chaud, effectivement. Est-ce que la vue est dégagée, là, aujourd'hui ? Bof, hein ?
Mais la vue, pour le moment, elle est dégagée, mais bon, le temps, vous savez, parler du temps, c'est perdre son temps, et on le verra au moment.
Oui, vous verrez bien sur le moment, ça peut être, voilà. Ça peut être non, changeant.
Ça peut être magique, comme hier, ils avaient annoncé mauvais, on a eu des éclaircies, on a eu la vue. Après, vous savez, il suffit qu'il passe 2 heures de temps, tu peux avoir le brouillard comme tu peux avoir le beau temps, surtout à cette époque.
Oui, donc il faut qu'ils s'installent tranquillement et qu'ils attendent que le soleil revienne. Ouais. Quoi.
Voilà, hein. voilà.
Eric Abadi, est-ce qu'ils vont chanter ?
Mais disons qu'on a un petit groupe de chanteurs là, qui vont chanter à la quand ils repartiront. Hein. Après, on a les pastorelles qui sont là pour recevoir les deux présidents. Les pastorelles, c'est un groupe folklorique de chez nous, hein, de campagne.
Ouais.
Et donc, elles seront là pour accueillir nos présidents. Et après, bon, quand ils repartiront, je pense qu'ils feront le refuge, comme ils font chaque année, comme à chaque fois qu'ils viennent chez nous.
Comme à chaque fois qu'il vient chez vous, et effectivement, voilà. À chaque fois qu'il vient chez vous, on connaît les images. Hein. Finalement, la France entière a fini par s'habituer à vos chants, à connaître presque vos menus par cœur, puisque chaque année, en effet, il vient faire étape, et même parfois plusieurs fois par an. Eric Abadi, ses chants, il les chantait. Vous connaissez la famille Macron depuis des dizaines d'années. Hein.
Oui, ça fait une trentaine d'années. Il venait avec ses grands-parents à l'époque. Il venait avec ses grands-parents, donc ça fait une trentaine d'années que je le connais.
Charles.
Et Eric Abadi, est-ce qu'il y a eu des consignes, que ce soit sur le menu ou même sur l'accueil, le protocole du côté des Chinois ?
Non, mais sûr que le protocole, il y a des choses, puisque bon, déjà, c'est pas la même culture. Donc après, bien sûr, il y a toute cette sécurité qui se met en place. Mais sinon, après, non, les Chinois ne nous ont pas demandé quoi que ce soit.
Non, rien de spécial, et vous serez avec eux comme vous seriez avec tout le monde, en fait.
Ah mais oui, mais de toute façon, c'est les gens comme les autres. C'est comme ça, peut-être pour ça qu'ils viennent chez nous aussi.
Exactement. C'est visiblement un vrai morceau de France. Merci Eric Abadi d'avoir témoigné avec nous ce matin, donc à l'aube de cette très très belle journée pour vous, puisque je le rappelle, vous êtes le patron de l'étape du Berger à la Mongie, au col du Tourmalet, et vous recevrez donc tout à l'heure non seulement le président français Emmanuel Macron, mais également le président chinois Xi Jinping. On l'a bien compris, il y aura du porc noir, il y aura de l'agneau de lait confit. Vous nous avez mis l'eau à la bouche à cette 16. Très belle journée à vous.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Marseille qui accueille demain la flamme olympique. Marseille où les rues sont jonchées de poubelles à cause d'une grève des éboueurs. Marseille où les règlements de compte ne connaissent pas de trêve olympique. On en parle dans 20 minutes avec Samia Ghali, l'adjointe à la mairie en charge des grands événements. Elle sera mon invitée à 7h40. Et avant cela, on se retrouve dans un instant pour le 7h20 d'Apolline Matin.
Apolline Matin.
Les indiscrets RMC.
Et on fait une petite parenthèse pour aller dans les coulisses de l'actualité politique avec Romain Cluzel. Bonjour Romain.
Bonjour Apolline.
Romain, pendant qu'on parle de la flamme olympique ou d'Emmanuel Macron au Tourmalet, les députés, eux, travaillent sur le texte de la fin de vie. Ils ont jusqu'à 17h aujourd'hui pour déposer leurs amendements. Et Romain, vous nous dites ce matin qu'il y a des désaccords.
À commencer par la définition même de l'aide à mourir. Le texte du gouvernement n'évoque pour l'instant que ce terme, aide à mourir. Dans ce texte, on ne peut plus sensible, chaque mot est pesé pour éviter de braquer un camp. Mais plusieurs députés souhaitent aller plus loin que le cadre fixé par Emmanuel Macron en utilisant les termes suicide assisté, voire euthanasie, pour définir plus clairement les possibilités offertes par le texte. Et puis, le principal sujet de débat concerne les critères pour accéder à cette aide à mourir. Le texte indique qu'il faut être atteint d'une maladie grave, incurable, avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Et c'est cette dernière partie qui pose problème, tout simplement parce que les médecins auditionnés par les parlementaires ont toutes les peines du monde à définir ce moyen terme. Plusieurs questions restent en suspens. Est-ce qu'on parle de 6 mois d'espérance de vie, 12 mois? Est-ce que ce pronostic est vraiment fiable? Cette définition, elle exclut aussi des patients atteints de la maladie de Charcot ou des personnes atteintes de handicap lourd qui ne sont pas en danger de mort imminente. Résultat, plusieurs parlementaires de gauche comme de droite souhaitent retirer la mention moyen terme, quitte à s'en tenir aux personnes en danger de mort à court terme et donc réduire le nombre de patients potentiellement concernés.
Et Romain, le débat se concentre aussi sur la personne qui pourrait administrer le produit létal.
La règle générale prévoit que le patient lui-même fasse le geste, sauf en cas d'incapacité physique. Un proche pourrait alors le faire et cette possibilité interroge de nombreux députés. Combien de temps à l'avance faut-il désigner ce proche? Comment savoir si cette personne le fait librement, sans ressentir un fardeau? Et quel accompagnement psychologique après la mort du patient? Des socialistes, par exemple, souhaitent supprimer cette option. Seul un médecin pourrait alors aider activement un patient à mourir. Les médecins, justement, auront le droit à une clause de conscience, le droit de refuser d'accompagner un patient qui veut bénéficier de l'aide à mourir. Quelques parlementaires veulent aller plus loin et proposent une clause de conscience collective qui s'appliquerait à tout un établissement. Un député prend l'exemple d'une clinique privée rattachée à l'église, mais à l'Assemblée, cette proposition fait quasiment l'unanimité contre elle.
RMC, Apolline Matin, le 7h20.
Apolline de Malherbe.
Et c'est l'heure du 7h20 d'Apolline Matin, avec autour de la table Amélie Rosic. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Manu Le Chip.
Bonjour.
Bonjour Manu. Arnaud Demange.
Bonjour.
Salut Arnaud. Amélie, on commence avec vous. Vous avez enquêté sur un dispositif gouvernemental à destination des jeunes qui a pris beaucoup de retard.
Ah oui, beaucoup de retard. Oui, il s'adresse à tous les lycéens qui préparent un bac professionnel. C'est dans le cadre d'une réforme pour valoriser ces filières. Le gouvernement a décidé de rémunérer les stages depuis la rentrée. 50€ par semaine de stage en classe de seconde, 75 en première et 100€ en terminale. C'est le père d'Axel qui nous a contacté. Son fils a fait 2 mois de stage depuis la rentrée. Il n'a toujours pas reçu de chèque. Au total, il attend 800€ et il n'est pas le seul. Son camarade de classe, Johan, est exactement dans le même cas.
C'est quand même national. On est des centaines de milliers à avoir besoin d'une aide.
On va avoir les grosses dépenses qui vont arriver. Donc, je pense par exemple au permis. C'est inadmissible qu'il y ait un tel retard et que personne n'en parle.
Qu'est-ce qui se passe avec ce dispositif, Amélie ?
Alors, avec Marilyn Hotman, nous avons découvert que tous les lycéens en bac pro sont en fait concernés par ces retards. C'est près de 630 000 jeunes. Et le problème a pris une telle ampleur que la porte-parole du gouvernement a dû s'expliquer publiquement. Je cite « J'annonce aux familles que d'ici la semaine prochaine, 100 000 lycéens verront leur gratification arriver. Et sur les semaines à venir, le reste arrivera. » Promesse donc de Prisca Thévenot, c'était le 9 avril alors, évidemment, on a vérifié. À ce jour, selon les chiffres du ministère, 300 000 versements ont été faits, soit la moitié des lycéens. Le rythme annoncé est donc respecté. Axel et Johan font partie des chanceux, mais parce qu'il y a encore un mais. Oh. Ils n'ont été payés que pour leur stage de septembre, pas pour ceux de janvier. Ils attendent donc toujours 400€ de la part du gouvernement.
Et comment le gouvernement justifie ?
Réponse du ministère de l'Éducation nationale, le processus a pris du retard sur le plan informatique. Il s'agit de la première année de ce dispositif inédit, nous dit-on. Soit. Le ministère veut en tout cas rassurer tous les lycéens qui nous écoutent et puis aussi leurs familles. Les périodes de formation depuis la rentrée feront bien l'objet d'un versement avant la fin de l'année scolaire. Au début, ça devait être au mois de janvier. On vérifiera tout ça, bien entendu, et on espère que ça arrivera à temps pour l'été.
Et vous connaissez le chemin, RMC avec vous, @rmc.fr. L'actu éco, Manu, les contours de la nouvelle réforme de l'assurance chômage se précisent.
Oui, d'abord avec le retour d'une mesure que le gouvernement avait tenté de mettre en place en décembre 2022 avant d'y renoncer. C'est la modulation de l'indemnisation du chômage en fonction du niveau de l'activité économique. Il s'agirait de réduire donc cette durée d'indemnisation de 25% si le chômage passe sous la barre des 9% et le réduire de 40% si le chômage tombait sous les 6%. On ne réduit pas donc la durée d'indemnisation dès maintenant quel que soit le niveau d'activité. Et c'était une critique, hein, de dire que bah, le chômage remonte et vous allez durcir les conditions d'indemnisation. Non, ça va dépendre de la conjoncture économique et ça n'est plus donc en contradiction avec ce que le gouvernement avait annoncé.
Dans les tuyaux également, il y a le durcissement des conditions d'ouverture des droits au chômage.
Oui, aujourd'hui, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour être indemnisé. La solution privilégiée serait d'allonger ce délai à 8, 9, voire 12 mois, toujours sur les 24 derniers mois. L'exécutif envisage aussi d'allonger ce qu'on appelle le délai de carence, c'est-à-dire la période pendant laquelle un chômeur n'est pas indemnisé après la rupture de son contrat de travail. Là encore, c'est 6 mois maximum, ça pourrait passer à 8, voire 12 mois. Et puis, il y a aussi des mesures qui concernent les employeurs, puisque le bonus-malus qui consiste à faire payer davantage de cotisations aux entreprises qui ont le plus recours aux contrats courts, eh bien, ça pourrait être élargi à l'ensemble des secteurs. Ça n'en concerne que 7 aujourd'hui. Voilà de quoi fâcher tous les partenaires sociaux, syndicats comme patronat.
Alors même que commence effectivement ces négos. Arnaud,
oui.
Mon invité ce matin dans le face-à-face sur RMC et BFM TV, c'est l'écrivain et réalisateur Yann Wax.
Ça plane pour moi.
C'est facile, mais je sais que vous l'aimez bien, donc je l'ai mis. Yann Wax qui vient présenter son dernier livre Visa, qui est un roman qui raconte son échange avec un officier administratif nord-coréen afin de pouvoir rentrer dans la dictature communiste. Mmh. C'est un bouquin écrit en collaboration avec un fonctionnaire nord-coréen. C'est l'éclate. Yann Wax était donc parti en Corée du Nord. Le leader de la Corée, c'est Kim Jong-un. À ne pas confondre avec le roi de la Corée, c'est Kamel Wally. Et le peuple vénère le grand Kim Jong-un en chantant ses louanges. C'est vrai, hein, si on vous entend pas chanter assez fort là-bas, vous êtes exécuté. Carla Bruni n'aurait pas fait carrière dans la musique, par exemple, en Corée du Nord. Alors, le pays est séparé de la Corée du Sud par une zone démilitarisée qui compte 1 million de soldats. Donc, je vous laisse imaginer la gueule des zones militarisées, pour le coup. Le pays va assez mal. Il a été en état de famine pendant très longtemps.
Oui, pas bien, il va pas bien.
Non, pas ouf. Il y a eu des catastrophes naturelles, des inondations, la sécheresse, le communisme stalinien. C'est vraiment très pauvre. Hein. Les habitants sont quasiment à poil. C'est ma Corée chez les nudistes. Et le régime alimentaire, je l'ai fait exprès pour lui, je savais qu'il aimerait bien. Le régime alimentaire est varié en Corée du Nord, on peut manger de la terre, du carton bouilli, de la propagande, et il y a une liberté de religion, vous pouvez adorer Kim Il-sung, vénérer Kim Jong-il, ou prier Kim Jong-un, c'est comme vous voulez. Donc, Yann Wax était parti là-bas pour tourner un documentaire avec Depardieu,
oui.
Vous vous souvenez, où il a déclamé face caméra un extrait de sa thèse en médecine du sport, intitulé « De l'incidence de la pratique équestre sur l'organe érectile de l'appareil génital féminin ».
Voilà, c'était ça en fait.
C'était ça le truc. Alors le propos de Yann Wax n'est pas de ridiculiser une des dernières bureaucraties communistes de la planète. Non, il décrit la rencontre entre deux mondes, la Corée du Nord et la France. Deux mondes qui ne se comprennent pas. D'un côté, celui d'un égocentrique maladif et de l'autre, celui de Kim Jong-un. Donc on découvre tout ça. On découvre tout ça à 8h30. D'ici là, eh ben, plein de poutous. Allez, à tout à l'heure.
À 8h30, effectivement. Donc, Yann Wax, vous l'avez compris, ce sera sa première réaction télévisée d'ailleurs depuis cette affaire de Depardieu. Il est 7h27. On se retrouve dans un instant pour la météo et le journal.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'incivilité demeure sur les routes françaises. RMC vous révèle en exclusivité ce matin le 14e baromètre de la conduite responsable Vinci Autoroute, dans laquelle on apprend que 2 conducteurs sur 3 insultent les autres au volant. Le Hamas accepte un cessez-le-feu trop loin des exigences d'Israël qui continue ses frappes sur Rafah alors que de nouveaux pourparlers doivent reprendre au Caire ce matin. Et puis Kylian Mbappé, facteur X du PSG, l'attaquant très attendu ce soir en demi-finale de Ligue des Champions face à Dortmund, dernier grand rendez-vous du Bondinois au Parc des Princes.
Il va falloir garder son calme au volant ce mardi, jour de départ pour le grand pont du 8 mai de l'Ascension.
Un long week-end prolongé avec du monde sur la route, bison, futé, voie rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays. De potentiels embouteillages propices à l'agacement, klaxon, coup de pression ou encore insultes, les Français sont particulièrement nerveux au volant. Résultat du 14e baromètre de la conduite responsable de la formation Vinci Autoroute que vous révèle RMC en exclusivité ce matin avec BFM TV. Une certaine nervosité est constaté par Mao Bécard-Granier.
Ni la musique à la radio, ni la cigarette qu'il fume à la fenêtre de sa voiture ne suffisent à calmer Karim. Il le reconnaît, au volant, il est souvent très agressif.
Je suis nerveux, en fait, quand ça roule pas, je m'énerve, je klaxonne. Ça m'arrive de faire des doigts, d'insulter, et puis voilà, ça rend fou.
Comme lui, 67% des conducteurs reconnaissent insulter parfois les autres. Marie, aussi, a souvent des ennuis sur la route.
Si on m'énerve ou qu'on s'amuse à me faire une queue de poisson et à plier devant moi, je vais décrocher et démarrer très très vite.
Et parfois, ça va même plus Plus loin, 18% des conducteurs disent sortir de leur voiture pour s'expliquer, ce que regrette Jackie.
J'ai vu des gens déjà donner un coup de pied dans la portière aussi. S'il y a un échange verbal qui dérape, après ça dérape sur des coups et essayer de se calmer, quoi.
Un climat dangereux pour tout le monde, résume Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute.
Ça génère des accidents qui pourrait être tout à fait évité si le climat était beaucoup plus apaisé, s'il y avait moins d'insultes qui créent des réflexes très impulsifs.
Le baromètre révèle aussi que c'est en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes que les conducteurs se comportent le plus mal.
Et l'Île-de-France qu'il est d'ailleurs recommandé de quitter dans le calme avant midi ce mardi par bison futé. Les bombardements se sont intensifiés cette nuit à Rafah, ville refuge du sud de la bande de Gaza. Israël veut accentuer la pression sur le Hamas qui a approuvé hier soir un accord de cessez-le-feu. Un accord trop éloigné des exigences d'Israël. Le Qatar annonce ce matin l'envoi d'une délégation au Caire en vue de nouveau pour parler. Un espoir de trêve qui s'éloigne selon David Rigoleros, chercheur associé à l'IRIS.
Ce qui est vraisemblable, c'est qu'effectivement le Hamas ait réalisé que l'obstruction qu'il avait manifestée de principe le week-end, a entraîné mécaniquement le lancement d'une opération sur Rafah et que ce serait une manière pour eux de, à défaut de l'empêcher, de la différer ou de la ralentir, ce qui est peu probable. Et là, on trouve effectivement une forme d'annonce à contre-temps et qui peut ne satisfaire personne.
Le nombre d'actes antisémites en France explose sur les trois premiers mois de l'année en hausse de 300% par rapport à la même période l'an dernier. Chiffre dévoilé hier soir par Gabriel Attal lors du dîner annuel du CRIF. Faut-il fermer les petites maternités? La Cour des comptes s'est penchée sur la question dans un rapport publié hier sur la période 2016-2021. Les sages s'interrogent sur l'efficacité des moyens alloués aux politiques de périnatalité. Ils constatent une hausse des moyens alors que la natalité chute. Un constat sans appel qui met en évidence, Martin Cadoret, des résultats sanitaires médiocres en la matière.
Oui, car les maternités assurant moins de 1000 accouchements par an sont particulièrement vulnérables, difficiles de recruter suffisamment pour appliquer la continuité des soins, explique la Cour des comptes, qui préconise de repenser l'offre, ce qui rend furieuse Michel Leflon, qui milite pour rouvrir la maternité de Sedan, qui a fermé il y a un an.
C'est vraiment pour jouer un rôle de Cour des comptes, à dire on dépense trop. Il y a besoin de maternité de proximité. Quand c'est à côté, s'il y a un doute, on y va tout de suite. La question, c'est bien comment on met dans ces lieux-là, les personnels qui sont nécessaires.
La Cour des comptes explique que les petites maternités ne permettent pas d'assurer un niveau de sécurité suffisant pour les femmes. Constat partagé par le professeur Olivier Morel, membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens.
Quand vous avez moins de 500 naissances par an, vous avez des complications qui vont survenir pas assez souvent pour garder un niveau de compétence. Donc le jour où ça arrive, vous êtes complètement démunis, vous n'avez pas de collègues en renfort.
Ce qui fonctionne, en revanche, souligne la Cour des comptes, c'est de transformer ces petites maternités en centre périnatal de proximité qui assure l'ensemble du suivi à l'exception de l'accouchement.
Le reportage de Martin Cadoret pour RMC. Seule la victoire compte pour le Paris Saint-Germain, battu 1-0 à Dortmund la semaine dernière. Les Parisiens doivent s'imposer ce soir au Parc des Princes pour se hisser en finale de Ligue des Champions. Des Parisiens qui pourront notamment s'appuyer sur Kylian Mbappé, décevant au match aller. L'attaquant sur le départ est très attendu par les supporters du club de la capitale pour ce qui sera, Valentin Germain, son dernier grand rendez-vous au Parc des Princes.
Oui, pour Matisse et Antonin, supporters, il y a de la déception et de l'attente.
Un peu de tristesse. C'est pas que ça choque, mais ça fait quelque chose. Ouais. C'est quand même important, donc j'espère qu'il va nous sortir un doublé ou un triplé.
Ça fait un petit pincement au cœur. Il vient de Paris, de Bungi. Il a joué quand même 7 ans au club. Il nous a apporté énormément de choses. Il a raté l'aller. Il va répondre présent.
Même si sa relation avec le public n'a pas toujours été fluide à cause de ses vrais faux départs au Real Madrid, le numéro 7 a souvent porté les siens dans la compétition. 42 buts et 26 passes décisives, donc impliqué en moyenne dans un but par match. Et pour ça, Willian le remercie.
C'est lui qui nous a porté pendant 2-3 ans, c'est lui qui nous a porté face à Madrid, c'est lui qui porte le PSG sur la scène internationale. Si le PSG est bien représenté, c'est grâce à lui.
Personne n'a oublié son triplé à Barcelone en 2021, ses réalisations ensuite contre le Bayern, ses doublés en 8e et en quart de finale cette saison. Mais son coach Luis Enrique l'attend encore au tournant ce soir.
Je suis habitué à parler de Kylian. Nous voulons qu'il touche les ballons dans les zones les plus dangereuses. Il faut que ses attaquants participent, défendent aussi. Je ne veux personne esseuler, ça vaut pour lui et les autres.
Le joueur est très concentré selon son président Nasser El Khelaifi qui rêve de cette finale pour clôturer l'ère Kylian Mbappé.
PSG Dortmund, soirée spéciale à vivre sur RMC en direct du Parc des Princes dès 18h. Le match c'est à 21h sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télévision.
Et justement, il y a Jamal qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Jamal.
Oui, bonjour à Pauline, bonjour à toute l'équipe.
Ça
bonjour
va,
à Charles
vous,
aussi.
Et bonjour à Charles aussi, parce que vous êtes agent de la Sécu, vous allez vérifier qui rentre dans le Parc des Princes ce soir.
Oui, j'ai fait des vacations au Parc des Princes chaque match du coup du PSG et je serai là-bas pour accueillir les supporters du PSG et on espère la victoire pour tout le monde. Voilà. Surtout Charles, demain il sera dans les nuages comme ça.
En particulier grâce à vous, hein, Jamal, parce que j'espère que vous allez le laisser passer.
Je sais pas si c'est passera où je serai, mais avec plaisir. Hein. Déjà de le voir face à face, ça me fera vraiment un plaisir.
Jamal, vous serez où exactement? Vous êtes aux portes à l'extérieur?
Après, je serai dans le terrain. Je serai sur le terrain et je serai à la porte dans une porte, je sais pas quelle porte désignée. Après, je serai directement steward à l'intérieur du terrain.
Donc vous pourrez voir une partie du match quand même.
Non, je peux pas voir. Je surveille les supporters. Cool. Je peux pas.
Vous voyez les supporters et vous êtes dos au match.
Voilà, dos au match, voilà.
Dos au match, donc il n'y a pas de soirée pour vous, c'est pas une veille de jour férié, on
peut tricher un petit peu.
Puis surtout ils peuvent vous raconter.
Et une demi-finale ça se rate pas quand même.
vous serez mieux placé presque, hein. Vous êtes vraiment au plus près. Vous le faites souvent Jamal?
Oui, chaque match comme je disais tout à l'heure à votre collègue, moi je suis technicien en froid et climatisation, je travaille au Marriott Village Île-de-France.
D'accord.
Et du coup, je travaille après-demain, là, donc quand j'aurai fini ma journée, j'irai directement au parc, je rentre à 2h30, 3h du matin chez moi, dans le 91. Et demain, je prends le premier train à 5h du matin. Du coup, je sais pas si je vais dormir ou pas. Voilà. J'ai pas le temps, voilà.
Là, vous enchaînez, donc vous faites, en fait, le Parc des Princes, c'est en extra de votre boulot.
Oui, c'est des vacations en fait.
Exactement. Et j'en déduis qu'il n'y a pas de jour férié parce qu'effectivement, vous travaillez dans l'hôtellerie.
Non, j'ai pas de jour férié mes jours, c'est choisi, mais les jours fériés ou au week-end, je travaille. D'ailleurs, je travaille du mardi jusqu'à samedi. Voilà.
Donc ça va être un long enchaînement, et y compris jour et nuit. Jamal, en tout cas, tout ça avec le sourire.
Et il n'y a pas de jour férié sur RMC, donc on fêtera ça ensemble demain
Charles
matin.
Charles aussi. Voyez, ce soir, il va énormément donner pour le PSG et demain matin, il sera aussi au Turbin.
Et merci Jamal et tous les agents de sécurité grâce.
Merci à vous tous.
Passer un super match.
Exactement, grâce à vous. On parle du match, mais on parle aussi des courses. Chantilly, Thibaut.
Oui, 13h55 sur RMC Découverte. Le 5, Denver Shop est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 6, Restive, le 5 et le 6.
C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h30.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.
Et dans un instant, on part à Marseille. Marseille pour les tout derniers préparatifs avant l'arrivée de la flamme olympique. Demain, Marseille où les rues sont jonchées de poubelles en raison d'une grève. On en parle dans un instant avec l'adjointe à la mairie en charge des grands événements, Samia Ghali. Elle sera en direct de Marseille. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h42, on part à Marseille.
L'invité du jour.
Avec vous, Samia Ghali, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous depuis Marseille ce matin. Vous êtes adjointe à la mairie de Marseille en charge de tous les grands événements. Et demain, c'est donc l'arrivée de la flamme olympique. D'abord, comment est-ce que vous le vivez et comment se prépare Marseille?
Bah écoutez, si je vous assure que c'est pire qu'un mariage, tellement l'organisation depuis maintenant quelques jours sur le vieux port partout est en train de s'installer tranquillement, mais magnifiquement d'ailleurs. La piste, d'athlétisme sur laquelle le porteur va pouvoir nous amener la flamme dans le chaudron est magnifique. Vous verrez, il va y avoir des images extraordinaires du vieux port et de toute sa rade. Et c'est ça qui est beau, c'est que tous les Marseillais attendent plus que ça maintenant.
Vous n'attendez plus que ça, je vous dis, les Marseillais, mais aussi tous les Français. Et d'ailleurs, je précise que les GG sont en route et seront d'ailleurs avec vous, Charles.
Et c'est même une journée spéciale qu'on va vivre demain sur RMC. Vous ne raterez rien de tout ce qui va se passer à Marseille. Les GG et le Super Moscato Show en direct de Marseille demain. Les GG au Mucem, le Super Moscato Show sur le Vieux-Port et même une radio digitale spéciale Flamme Olympique dès 18h sur l'appli RMC.
Samia Ghali, on va évidemment revenir sur ensuite tout le parcours et tout ce qui va se passer demain, mais il y a quand même une petite fausse note quand même sur le tableau, c'est poubelles partout dans la ville avec la grève des éboueurs qui vient un peu gâcher la fête quand même.
Écoutez, depuis hier fin d'après-midi, tout est en train d'être nettoyé. Ils ont repris le travail. Il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas encore fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les choses rentrent dans l'ordre petit à petit et que tout va rentrer dans l'ordre. Vous inquiétez
pas. Ils ont repris le travail. Vous nous dites donc ce matin, Samia Ghali, qu'un accord a été trouvé avec la CGT.
Je dis pas tout le monde. Attention, pas tout le monde a repris le travail. Mais en tout cas, sur la partie qui nous concerne déjà, tout le monde a repris le travail.
C'est quoi la partie? Quand vous dites la partie qui nous concerne déjà, c'est quoi? C'est la partie vieux port?
C'est la partie Vieux-Port, là où la flamme va, la trajectoire de la flamme. De toute manière, vous savez, moi je fais confiance. Je sais ô combien, bien sûr, que les syndicats et les grévistes, tout le monde a le droit de faire grève. Mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir, on ne peut pas gâcher la fête, on ne peut pas être là, on ne peut pas prendre, je dirais, l'événement en otage et tout le monde en otage. Donc tout le monde a compris. Je crois qu'il y a une volonté de ne pas venir gâcher la fête. Celle-là, elle est réelle. Et c'est ce qui compte, et je vous garantis que tout finira par rentrer
dans
l'ordre.
Pardon, mais je veux juste comprendre, quand vous dites toute la partie qui nous concerne, c'est-à-dire qu'en fait, la partie effectivement Vieux-Port où arrive la flamme, etc., on comprend bien qu'elle sera nettoyée pour l'instant T. Mais Samia Ghali, quand vous dites qu'ils ont repris le travail, est-ce que ça veut dire qu'il y en a une partie qui a été réquisitionnée pour venir travailler, ou est-ce qu'effectivement, il y a une partie des éboueurs qui ont, au moment où on se parle, repris le travail et renoncé à la grève?
Tout à fait. De ce que me dit la métropole encore hier, puisque vous savez, on est en échange avec eux, c'est la métropole, donc c'est pas la ville de Marseille, la métropole qui collabore, hein, et c'est normal et qui fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, fait en sorte justement de discuter avec ses salariés. C'est pas les nôtres. Donc voilà, pour que trouver des accords, essayer de trouver aussi des réponses peut-être à leurs questions, pour qu'ensuite on puisse faire que l'arrivée de la flamme se fasse dans de bonnes conditions. Mais je n'ai aucun doute de ce qu'on me dit, en tout cas de ce que m'a dit la métropole hier, c'est que les choses avançaient dans le bon sens. C'est pas terminé sur l'ensemble de la ville, mais pour une grosse partie de la ville, les choses sont rentrées dans l'ordre, sont en train de rentrer dans l'ordre.
Samia Ghali, Florent Manaudou sera donc le premier relayeur de la flamme à l'arrivée du Bélème, le voilier qui transporte la flamme depuis la Grèce. Est-ce qu'on va voir Zinedine Zidane?
Non, on verra certainement pas Zinedine Zidane, mais en même temps, vous avez d'autres champions marseillais qui ont fait briller Marseille, notamment Didier Drogba, que les Marseillais adorent, et personnellement que j'adore d'ailleurs, qui sera là, Jean-Pierre Papin, Boli, ben voilà, il y a des noms, Luis Anessib pour le foot féminin, parce qu'il faut pas l'oublier, le foot même féminin. Vous voyez, on a des personnalités, on a Colette, la plus, je veux dire, la doyenne des supporters de l'Olympique de Marseille. Vous voyez, il y a des vraies figures. Voilà, exactement, qui ne sont peut-être pas pour certains des sportifs, mais qui ont contribué, des résistants, donc voilà, des gens qui ont apporté quelque chose à la ville, ont apporté quelque chose à la France, et c'est ça qui est important. C'est pas forcément, il y a des humoristes, des chanteurs, on a de tout, donc voilà, et ça c'est important parce que c'est pas forcément toujours le sportif comme on l'imagine, hein, qui bien sûr c'est important qu'ils y soient, mais c'est important aussi qu'il y ait d'autres figures de la ville et de ou françaises qui nous ont apporté, qui nous ont fait briller un moment, ou en tout cas qui nous ont apporté du bonheur à un moment.
Vous parlez des supporters de l'OM, il y a en fait les deux événements évidemment qui sont concomitants, parce qu'il y a Marseille qui se déplace à Bergame, demi-finale retour de la Ligue Europa. Qu'est-ce qui fait le plus vibrer le cœur des Marseillais, l'arrivée de la flamme ou le match de l'OM?
Alors je vais vous dire quelque chose. Vous savez, les supporters de l'OM sont avec nous depuis le début. Ils sont en train de préparer des tifos qui seront installés tout le long du Vieux-Port et qu'on va, vous allez pouvoir d'ailleurs à partir du Mucem, hein, parce que vous y êtes, vous allez pouvoir voir les fresques qu'ils ont fait, qui sont magnifiques, je peux vous le dire. Et ils sont autant, excités à l'idée de recevoir la flamme que bien sûr derrière. Mais comme la flamme rentrera dans le stade Vélodrome, certainement qu'elle nous apportera chance pour pouvoir gagner derrière.
Exactement, on croise les doigts avec vous. C'est aussi juste une question sur la sécurité, un test un peu grandeur nature, hein, aussi des grands événements sportifs à suivre, et des JO donc en juillet. Il y a quand même 150 000 spectateurs qui sont attendus. Est-ce que vous avez eu des alertes ces derniers jours? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que du point de vue de la sécurité, je crois qu'il y a 6 000 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés. Est-ce que tout se prépare bien?
Écoutez, tout se prépare bien. En tout cas, nous faisons tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. D'abord, il y aura aucun véhicule qui me pénétrera dans l'enceinte du Vieux-Port sur toute la partie festive. Ça, c'est clair. Et vraiment, quand je dis aucun véhicule mobile, qu'il soit même un vélo, trottinette, rien. Voilà. Les Marseillais auront des bouches de métro fermées, là aussi, sur les sorties de manifestations. Par contre, les métros seront plus ouverts plus loin pour pouvoir accéder à pied, à 5 minutes à pied, déambuler tranquillement pour arriver au moment au niveau du spectacle. Oui, il y a beaucoup de policiers, police nationale, police municipale, police privée. Il y aura aussi des bénévoles qui sont formés, qui ont l'habitude, qui seront à nos côtés. Donc, c'est tout ça. Et les restaurateurs, tout le monde est de la fête. Donc, tout le monde se sent concerné. Ce qui compte, c'est qu'on réussisse. Et moi, je n'ai pas de doute à la réussite. Et c'est important, voilà, de pouvoir aussi fêter des grands événements comme ça sans avoir la boule au ventre. Et je pense que tous les moyens sont mis en place pour que nous soyons tous vigilants. Et c'est ça qui est important.
Merci d'avoir commencé à nous faire vibrer donc ce matin. Marseille, donc centre du monde pour l'arrivée de cette flamme. Merci Samia Ghali d'avoir été en direct avec nous.
Et jamais les premiers.
Ouais. Charles, ça va?
On attend quand même ce soir le match, Samia Ghali aussi.
Samia Ghali qui nous disait aussi à l'instant donc que les rues de Marseille commençaient à être nettoyées et qu'il y avait une reprise progressive du travail des éboueurs. 7h50.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, expliquez-nous, Nicolas.
Je vous explique ce qui se passe à Gaza. Le Hamas a accepté une trêve, mais les bombardements continuent.
À tout de suite.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles Slimane est dans les starting blocks à 4 jours de la finale de l'Eurovision.
Oui, il n'y a pas que l'OM et le PSG qui vont devoir briller sur la scène européenne cette semaine. Samedi soir, en Suède, Slimane aura la lourde tâche de faire oublier le fiasco de l'an dernier avec Lazara. Slimane est déjà sur place à Malmö où les premières répétitions viennent d'avoir lieu à huis clos. Mais on a eu droit à un premier extrait de sa prestation.
Et si tu ne viens pas, je t'attendrai. C'est toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peine.
Mon amour, c'est le titre de cette chanson qu'il interprétera une première fois jeudi soir lors des demi-finales. Mais pas de panique, la France est déjà qualifiée. La France fait partie des 5 pays qualifiés d'office pour la finale de samedi soir. On sait déjà que Slimane passera en deuxième partie de soirée samedi soir, ce qui est un bon présage, nous disent les spécialistes. Les bookmakers sont d'ailleurs assez confiants. Donc on croise les doigts et on y croit pour Slimane samedi soir.
C'est beau, franchement.
Apolline Matin.
Il est 7h54, Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Le Hamas a accepté un accord de cessez-le-feu à Gaza. Israël examine cette proposition, mais en attendant, l'armée israélienne a bombardé la ville de Rafah hier soir. Et il est difficile ce matin d'y voir clair.
Oui, ce qui est certain, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses très importantes autour de la ville de Rafah depuis 24 heures. Cette nuit, l'armée israélienne a bombardé la ville et touché au moins une cinquantaine de cibles. Pratiquement au même moment, hier soir, le Hamas, par la voix de son chef politique, Ismaël Haniyeh, faisait savoir qu'il acceptait les termes d'un accord de cessez-le-feu. Annonce qui a provoqué dans la bande de Gaza des scènes de liesse et des tirs en l'air en signe de joie. Puis les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles examinaient les termes de cet accord, mais que pour l'instant, cette proposition est loin des exigences israéliennes.
Qu'est-ce qu'on sait de cet accord ?
Alors, on n'a pas encore les détails. C'est un texte qui a été proposé par l'Égypte et le Qatar. On sait que les dernières discussions portaient sur une trêve de 40 jours environ, sur la libération de 33 otages israéliens, surtout des femmes, sur la libération de nombreux prisonniers palestiniens détenus en Israël. L'accord devrait aussi prévoir un retrait des troupes israéliennes de Gaza, le retour chez eux des habitants du nord de la bande de Gaza. Enfin, les discussions porteraient également sur la reconstruction de Gaza après la guerre. Le Hamas a fait savoir hier soir que cet accord comprend 3 phases de 42 jours chacune, des phases qui pouvant déboucher à la fin sur un cessez-le-feu permanent.
Comment expliquer qu'Israël ait bombardé Rafah malgré l'annonce de cet accord?
Eh bien parce que cela signifie simplement qu'Israël, pour l'instant, n'a pas accepté la trêve et en attendant, de leur point de vue, les Israéliens pensent que les opérations militaires peuvent se poursuivre. Ce qui est sûr, c'est que jusqu'au bout, les Israéliens se sont préparés à attaquer Rafah. C'est la dernière ville que l'armée israélienne n'a pas encore investie. C'est là que s'entassent plus d'un million de réfugiés qui ont fui les combats. C'est là aussi que se trouvent certainement les dirigeants du Hamas que les Israéliens veulent capturer mort ou vif.
Et hier encore, les Occidentaux conjuraient Israël de ne pas lancer cette bataille.
Oui, c'est une offensive qui fait l'unanimité contre elle. Ce serait inhumain, a déclaré un porte-parole de l'ONU. La France a rappelé son opposition, l'Allemagne et la Grande-Bretagne aussi. Mais le plus important, c'est l'intervention de Joe Biden qui a appelé hier le Premier ministre israélien pour lui redire son opposition à une intervention dans la ville de Rafah.
Mais malgré tous ces appels, Israël reste déterminé. Hein.
Oui, seul et contre tous, les Israéliens voulaient aller jusqu'au bout de cette guerre, jusqu'à la victoire totale, comme le répète constamment le Premier ministre Netanyahou. Dans la matinée d'hier, l'armée israélienne a largué des prospectus pour demander aux habitants des quartiers est de Rafah de quitter la zone. Des SMS ont également été envoyés, des messages par haut-parleur en arabe. Et tout cela a provoqué un énorme exode. Quelques 100 000 personnes ont commencé à fuir cette partie de la ville, persuadées que l'opération militaire tant redoutée était sur le point de commencer. C'est peut-être cela qui a conduit le Hamas à, en quelque sorte, lever le pouce, en tout cas à accepter cet accord. Désormais, les cartes sont entre les mains des Israéliens. Soit ils acceptent la trêve, soit ils maintiennent la pression pour obtenir un accord plus favorable, c'est ce qui se passe en ce moment, soit ils rentrent vraiment dans Rafah, et alors ce serait le début d'une longue et terrible bataille. Les trois scénarios sont tout à fait possibles.
Et au moment même où vous vous exprimiez, Nicolas, une alerte de l'AFP, l'agence France-Presse nous parvient, Israël dit avoir pris le contrôle du côté gazaoui, du point de passage de Rafah avec l'Égypte à suivre. Donc merci Nicolas pour ces explications. Il est 7h57.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.